J'aimerais que nous introduisions par un verset qu'on va vous projeter dans Ésaïe 58, le verset 7. « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Eh bien, ce matin, je vous invite à réfléchir sérieusement à l'un des plus grands défis qui va être proposé à l'Église occidentale. Et c'est l'accueil des étrangers, des réfugiés, des sans-abri. Ça, c'est un défi énorme qui est devant nous. Selon les indications du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, donc l'UNHCR, l'an dernier, en 2014, plus de 50 millions de personnes dans le monde sont des réfugiés. C'est davantage que pendant la Deuxième Guerre mondiale et probablement davantage qu'à n'importe quel moment de l'humanité. Mais quand on voit ce qui se passe en ce moment depuis le début de l'année 2015, ce drame qui s'amplifie chaque jour un peu plus, je tremble en pensant aux chiffres qui nous seront publiés l'année prochaine pour cette année 2015. Alors souvent je me pose la question, mais quelle est notre réaction face à cette actualité? Cette actualité qui nous inquiète, qui nous dérange parfois, qui est un défi pour nous. Quelle est notre attitude en tant que chrétiens qui avons tout pour bien vivre face à ceux qui n'ont plus rien du tout? Comment les églises aussi, ça c'est une question importante, comment les églises se préparent-elles à l'accueil de ces gens? Pour essayer de répondre à toutes ces questions, j'aimerais simplement vous rappeler en quelques minutes l'enseignement de la parole de Dieu à ce sujet. Et d'abord l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il ne faut pas oublier que le rapport à l'étranger traverse toute l'histoire du peuple hébreu. Depuis Abraham qui a reçu cet ordre de Dieu, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai » dans Genèse 11. À partir de là, toute l'histoire du peuple d'Israël se résume à deux expériences essentielles. Au début, c'est l'Exode. Vous avez été des émigrés en Égypte. Et moi, je vous en fais sortir. Et à la fin, l'exil à Babylone, de l'exode à l'exil. C'est tout le message de l'Ancien Testament pour le peuple juif. Et d'ailleurs, cela se traduit dans la loi de Moïse, puisque, par exemple, il y a plusieurs versets, mais par exemple, dans Exode 29, verset 3, « Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous connaissez la vie de l'étranger, puisque vous avez été vous-même des étrangers, vous avez résidé comme étrangers dans le pays d'Égypte, etc. » Et je me dis, maintenant, approfondissons un peu cette pensée, et je pense que aimer l'étranger, c'est une invitation à découvrir notre propre condition d'étranger. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe souvent dans les églises occidentales, où, parce qu'on vit mieux qu'ailleurs, on a tendance un peu à s'installer ici-bas sur la terre, alors que sur la terre, l'Église est en pèlerinage pour la maison du Père, vers la cité céleste. Dans Hébreu 13, verset 14, « Nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » La Bible nous dit clairement que nous aussi, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. À quelque part, nous sommes des réfugiés dans un monde qui est hostile. Et le monde est hostile à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une vérité fondamentale que nous rencontrons, que nous rencontrerons pendant tout notre séjour sur la terre. J'en parlerai plus longuement ce soir. Il est hostile à l'Esprit de Dieu, il est hostile à notre Maître, il est hostile à Jésus. L'Esprit du monde, l'Esprit de Satan est à l'œuvre et est hostile à Jésus, il est hostile à ceux qui veulent le suivre. Et cela nous introduit à l'enseignement du Nouveau Testament. Alors, bien sûr, dans le Nouveau Testament, apparaît Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Mais réfléchissez à sa vie. À peine né, le voilà déjà en fuite avec ses parents vers l'Égypte. À peine né, il a quelques jours, il est déjà en fuite vers l'Égypte. Et souvenez-vous aussi dans son ministère, comment plus tard, quand il est dans son ministère, il accueille le centurion romain, il guérit la fille d'une étrangère, cette femme syrophénicienne. Il va à la rencontre des Samaritains, ce peuple détesté des Juifs. C'est lui qui fait le premier pas. Il va à leur rencontre, etc., etc. Le salut n'est plus réservé à un peuple élu. mais aux païens, à tous les hommes, à vous et à moi. Et quand je réfléchis à cette attitude de Jésus, je me dis que fondamentalement, Jésus voulait montrer aux nationalistes de son propre peuple que l'identité d'un peuple ne se définit jamais par opposition aux autres. L'identité d'un peuple se définit par son rapport avec le prochain, par mon rapport avec mon prochain. Et c'est en cela que le message de Jésus est révolutionnaire et qu'il doit guider l'attitude de l'Église, spécialement dans les temps que nous vivons. L'un des meilleurs exemples dans le Nouveau Testament, je pense que c'est la parabole du bon samaritain, où Jésus nous enseigne qu'au centre, il n'y a pas moi, mais il y a un homme blessé, un homme qui a besoin de secours, qui a besoin de moi. Cet homme blessé, le dépouillé, le roué de coups, abandonné au bord de la route, voilà mon prochain. Et de la même façon, par extension, je dirais qu'on ne choisit pas les clandestins et les réfugiés. Ils nous arrivent, ils ont besoin de nous tout simplement, on ne les choisit pas, ils sont là et ils arrivent. Autre texte très fort dans Matthieu 25, verset 35. Vous connaissez ce texte où Jésus s'identifie aux pauvres, aux malades, aux prisonniers, à l'étranger. Où il dit « J'étais un étranger, vous m'avez recueilli, j'étais malade, m'avez soigné, j'étais en prison, vous m'avez visité, etc. » Et enfin, après la Pentecôte, il y a cet épisode dans Acte 6 où les hellénistes, donc des étrangers, murmurent contre les Hébreux concernant l'aide humanitaire que leurs veuves ne recevaient pas. Que va-t-il se passer? Les apôtres vont prendre la question très au sérieux, vont se réunir et ils vont se répartir les tâches en donnant la priorité à la prière et à l'annonce de l'Évangile et d'un autre côté, tout faire pour ne pas négliger l'accueil, l'assistance aux nécessiteux, notamment aux non-juifs. Et dans l'Église, aujourd'hui, je pense que cela n'a pas changé. Nul n'est étranger dans l'Église, parce que le Seigneur nous accueille tels que nous sommes. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous laisser ce matin. C'est une parole très simple, mais c'est fondamental de réaliser que nous-mêmes aussi, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Nous n'avons pas ici-bas de patrie permanente. Nous sommes en route vers la cité céleste. Comme dit dans Colossiens 3, 11, l'apôtre Paul, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, mais il y a Jésus qui est tout et en tous. Et dans le cadre du CACP, le Comité d'Action pour les Chrétiens Persécutés, cela fait partie de nos valeurs fondamentales. Nous avons trois valeurs au CACP. La première, c'est de soutenir les chrétiens persécutés. C'est notre raison d'être, c'est notre histoire. Quand le CACP a commencé dans les années 70-72, c'était d'abord pour soutenir les chrétiens persécutés. Et cette œuvre s'est considérablement développée au fil des années. D'abord en Allemagne, ensuite en Suisse allemande, ici en Romandie et en France ensuite. Et il y a de plus en plus de chrétiens persécutés dans le monde à l'heure actuelle. Notre deuxième valeur, c'est d'aider les nécessiteux. Et quand nous disons aider les nécessiteux, ça veut vraiment dire ce que je viens de dire avant, les accepter tels qu'ils sont. On ne les choisit pas. Si on fait appel à nous, c'est notre prochain qui a besoin de moi et je dois répondre à sa demande. Je dois tout faire pour l'accepter tel qu'il est et essayer de l'aider. Et la troisième valeur, qui est un peu la spécificité de notre mission, c'est que nous faisons connaître Jésus-Christ en associant harmonieusement la prédication de la parole de Dieu à l'action. C'est en nous référant à cet épisode des Actes que je vous rappelais tout à l'heure, où les apôtres ont d'abord mis l'accent sur la prédication de la parole et leur ministère d'apôtre, on va dire, et l'aide aux pauvres, aux nécessiteux, qui a été ensuite déléguée aux diacres. Mais les deux vont de pair, parce que Jésus, quand il était sur terre, ne mettait jamais de côté celui qui avait besoin de lui. Et quand les gens avaient faim, il leur donnait à manger. Et cela revient plusieurs fois. Alors, concrètement maintenant, ça c'est l'enseignement résumé de ce que nous dit la parole de Dieu. Mais concrètement, en ce qui concerne le problème des réfugiés, pour nous, CACP, notre priorité, c'est d'agir en amont et de les aider dans les camps, là où ils sont, quand ils sortent de leur pays et lorsqu'ils viennent à nous. Et nous avons commencé cette approche il y a maintenant presque 3 ans, quand la guerre a éclaté en Syrie et que les Syriens sont sortis en masse vers le Liban. Notre gendre est libanais, il habite à Beyrouth et nos enfants habitent à Beyrouth depuis maintenant 7-8 ans. Et en voyant ces images qui défilaient à la télévision, je voyais tous ces réfugiés syriens qui allaient au Liban. Je lui écris, je lui dis, mais Georges, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, c'est ACP, là, on s'engage tout de suite. Ces gens quittent tout ce qu'ils ont, ils arrivent au Liban où ils n'ont plus rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il m'a dit, ah, ben, si vous nous aidez, nous, on fait tout de suite quelque chose. Et c'est comme ça que le projet a commencé. Et nous avons réussi à intéresser plusieurs sponsors qui ont donné de l'argent pour ce projet. Et à l'heure actuelle, au Liban, notre gendre est responsable donc, du projet du CACP dans la plaine de la Beka. Nous nous occupons de 450 à 500 familles tous les mois. Tous les mois, ils reçoivent à manger. On les visite, tous les vendredis pour l'aide alimentaire. Et ils y retournent dans la semaine pour leur apporter la parole de Dieu. On ne mélange pas les deux choses. Le vendredi, c'est là, les gens ont faim, alors on leur donne à manger. Et le mercredi, le mardi ou le mercredi, ils retournent pour répondre à leurs questions. Ils distribuent des traités, distribuent des Nouveaux Testaments. Vous savez, il y a des imams qui se sont convertis. Parce qu'ils ont vu que les chrétiens avaient une attitude cohérente. Ils prêchaient pas seulement l'amour de Jésus, mais ils allaient à leur rencontre. Et ensuite, ils leur disaient, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Mais c'est parce que l'amour de Jésus est dans nos cœurs et parce que nous vous aimons. Et il y a à l'heure actuelle plusieurs petites cellules, je ne veux pas dire cellules de maison, mais cellules de tentes, parce que les réfugiés ils ont des tentes où les premiers chrétiens dans ces camps se réfugient donc sous des tentes et font ce que nous faisons ici quand nous nous réunissons dans les maisons. Ils chantent, ils louent le Seigneur de tout leur cœur, ils ont des études bibliques, ils s'approfondissent dans la foi et ils témoignent. Ce n'est pas toujours évident parce que dans les camps de réfugiés on rencontre beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup d'autres problèmes qui se posent, notamment celui des enfants. Et donc nous avons commencé un autre programme, un programme scolaire pour les enfants des réfugiés. Nous avons deux écoles, une dans la Beka, une au bord de la mer, près de l'aéroport international à Damour. Là viennent vraiment les plus pauvres des pauvres. Ce sont leurs parents squattent des abris de jardin dans les bananeraies qui sont là le long de la mer. Ils sont 12-15 dans des cabanes de 10 mètres carrés. Et nous recueillons ces enfants. Nous essayons de leur apporter de la nourriture et aussi la nourriture de la parole de Dieu. Nous essayons de faire un programme scolaire conformément au programme de leur pays pour que si un jour ils retournent chez eux, ils puissent avoir le bon niveau scolaire. Maintenant, il y a depuis un an un autre problème qui s'est posé au Liban, c'est la crise irakienne. Alors, quand Daesh a commencé à envahir le nord de l'Irak, en août l'année dernière, enfin il y avait déjà des problèmes au mois de juin, mais surtout en août, au début août l'année dernière, ils ont spécialement ciblé une ville chrétienne qui s'appelle Karakoche. Et les gens de Karakoche ont dû fuir en l'espace de quelques minutes. On a des témoignages de gens qui ont fui en une demi-heure. Ils ont tout laissé sur place, leur maison, leur voiture, le compte en banque, tout. Ils ont fui pour sauver leur vie. Et la condition des réfugiés irakiens est souvent différente de celle des réfugiés syriens, dans le sens que ce sont des gens plus instruits. Il y a parmi eux des médecins, il y a des professeurs, des informaticiens, des gens qui ont un haut niveau d'instruction et qui ont tout laissé juste pour sauver leur vie. Et ils se sont précipités vers Bagdad, et il y a des vols low cost de Bagdad jusqu'à Beyrouth, et ils sont arrivés en masse à Beyrouth, au point qu'à l'heure actuelle, nous avons au moins 1100 familles chrétiennes, irakiennes, dans les environs de Beyrouth. Alors eux, ils sont réfugiés dans les montagnes. Le Liban, c'est un petit peu comme la Corse en plus grand, c'est-à-dire que vous avez la mer et tout de suite après la montagne. Et alors dans la montagne, à bien des endroits, ils squattent des constructions qui ne sont pas achevées ou des endroits insalubres souvent. Et ils sont là, ils attendent de l'aide. Ils cherchent à partir à l'étranger, mais c'est difficile. Et alors, il se trouve que nous avons eu un contact avec un confrère irakien, qui est chrétien, un médecin irakien, qui a été d'accord, si on lui donne les moyens, de soigner son propre peuple. Et donc, on a commencé 4 petits dispensaires dans la montagne où les gens viennent. Et alors, ils reçoivent les soins médicaux, mais ils reçoivent aussi la parole de Dieu. Voilà comment le Seigneur ouvre des portes pour des gens qu'on n'aurait jamais pu toucher autrement. Ça, c'était la crise au Liban. Maintenant, il y a une autre crise qui est apparue il y a un peu plus de 2 ans en Grèce. Et c'est une crise, au début on ne s'en rendait pas compte, maintenant que les réfugiés arrivent de tous les côtés, tout le monde en parle, mais à l'époque on n'en parlait pas tellement. À Athènes arrivaient des réfugiés, surtout d'Iran. Et ces réfugiés iraniens, en fait, c'était originellement des Afghans. À savoir, c'était des Afghans qui avaient quitté l'Afghanistan pendant la guerre et ils sont allés en Iran. Les femmes ont accouché là-bas en Iran et les autorités iraniennes n'ont pas reconnu les enfants afghans nés en Iran comme étant iraniens. Et donc, il se trouve que ces enfants nés en Iran, de parents afghans, n'ont pas d'identité. Alors, quand ils sont arrivés en Grèce, les Grecs leur ont dit « Ah, mais vous, on ne peut pas vous donner le statut de réfugié, vous êtes des clandestins. » Et la loi des clandestins s'est immédiatement appliquée pour eux, ils se sont retrouvés en prison. Et c'est comme ça que l'Europe accueille les clandestins, n'est-ce pas, entre guillemets, qui étaient des réfugiés qui n'avaient aucun papier, des sans-papiers, ils y étaient pour rien. Alors, le juge les met en prison et les convoque tous les 6 mois en disant « Si vous pouvez me prouver votre identité, si vous pouvez me donner un acte de naissance, eh bien, je reverrai votre condition, vous pourrez sortir de prison. » Mais qu'est-ce qui peut se passer en 6 mois s'ils n'ont rien au départ? Ils ne peuvent pas produire des papiers qui n'existent pas. Et c'est ainsi que ma femme et moi, nous sommes allés à Athènes l'année dernière. Il y a plusieurs chrétiens parmi ces gens qui ont été emprisonnés. Et on nous a signalé le cas d'un jeune chrétien qui était enfermé à Corinthe. Nous sommes allés le voir. J'étais entouré de 7 gardes. Pour aller voir ce pauvre ami qui était derrière des fils de fer, à l'air. On est arrivé auprès de ce frère. Il était là, en pleurs. Et il m'a dit, écoute frère, j'ai vu le juge hier, ça fait 6 mois que je suis en prison, j'ai vu le juge hier, jeudi. Et il m'a demandé des papiers. J'ai pas de papiers, j'ai pas pu produire des nouveaux papiers en 6 mois puisque j'en ai pas. Prie pour moi, je n'en peux plus. Je suis entouré par toute la pègre de la prison. Il y a ici des assassins, des meurtriers, des pédophiles, de tout ce que vous voulez. Ils sont là, ils me harcèlent sans arrêt parce que je suis chrétien. Je ne peux plus continuer comme ça. Je vais mourir si je reste ici. Et je n'ai rien fait pour être dans cette prison. Alors je lui ai dit, écoute frère, on va prier. Alors il m'a passé 2 doigts, là qu'il a fait traverser à travers la grille. Et je l'ai pris ces 2 doigts, et puis j'étais avec un autre frère. J'ai dit, maintenant on va prier. Et il y avait les gardes qui étaient autour, et je dois dire, ils étaient respectueux, parce qu'en Grèce, quand même, en général, les gens sont assez respectueux pour tout ce qui est chrétien, entre guillemets. Et mon traducteur a dit aux gardes, on va prier. Il a dit, oui, c'est bon, allez-y, priez. Et je crois que c'est une des prières les plus désespérées que j'ai jamais faites dans ma vie. J'ai supplié le Seigneur de faire un miracle. Parce que je voyais la situation de ce jeune, moi je voyais qu'il allait se suicider, il ne pouvait pas continuer. C'était une situation impossible pour lui. Et à la fin, je lui ai dit, écoute, on a remis cette situation entre les mains du Seigneur, on va voir ce que nous, on peut faire encore de notre côté, mais c'est le Seigneur qui doit intervenir et moi, je lui fais confiance. Le lendemain samedi, on a repris l'avion pour Zurich. Quand nous sommes arrivés chez nous à la maison, je n'avais pas déposé ma mallette que le téléphone sonne et nos amis d'Athènes nous disent, tu n'imagineras jamais ce qui s'est passé, le frère a été libéré ce matin. Et encore, à l'heure actuelle, on n'a aucune explication. Il avait passé la veille chez le juge qui lui a dit, écoutez, je ne peux rien faire pour vous, vous n'avez pas de papier. Et le lendemain de notre prière, Dieu a fait ce miracle. On a un Dieu puissant qui agit aussi dans ces situations désespérées parce qu'il voit le cœur de celui qui s'adresse à lui. Et la parole de Dieu dit, quand le malheureux crie, l'Éternel répond. Et alors, maintenant, ce travail se développe. On a commencé un deuxième centre à Patras, dans le sud, parce que c'est de là que partent les réfugiés pour aller vers l'Italie, s'ils peuvent. Ils attendent que la nuit vienne et ils essayent de monter à bord des bateaux qui vont vers l'Italie. Et puis, ils sont traqués par la police grecque qui est d'extrême droite le plus souvent. Et quand ils attrapent ces pauvres réfugiés, ils les passent à tabac, ils les mettent en prison. Et nous essayons, dans une certaine mesure, aussi de les aider, de leur donner à manger et d'essayer pour certains d'entre eux de régulariser leur situation. La crise a continué à s'aggraver, vous le savez, comme j'en parlais tout à l'heure. L'année dernière, il y a eu l'émergence de l'État islamique et de toutes ses horreurs. Et il se trouve que notre responsable principal du programme à Athènes, c'est un Iranien qui s'est converti dans des circonstances absolument extraordinaires. Il a un peu une histoire comme le Sadhu Sundar Singh. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable ce que Seigneur a fait dans la vie de cet homme, qui était un haut officier de l'armée iranienne, condamné à mort, etc., et qui a pu sortir d'Iran, et qui a pris ce projet d'Athènes entre ses mains. Et un jour, il nous téléphone, il nous dit, écoutez, nous avons plusieurs réfugiés qui arrivent de la frontière turco-syrienne et qui nous disent que la situation est dramatique. Les gens fuient par milliers devant l'État islamique, puisque c'était les grands combats à Kobané, hein, vous avez vu ça dans la presse. Kobané, c'était la dernière ville que l'État islamique n'avait pas réussi à soumettre, on va dire, à prendre. Et pour eux, stratégiquement, c'était important parce qu'en prenant Kobané, ils prenaient le contrôle de toute la frontière syro-turque à ce niveau-là. Et ils ont dit, les réfugiés sortent par milliers. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, au mois de novembre, nous sommes partis, ma femme et moi, donc à Suruk, qui est la dernière ville turque avant Kobané, et nous avons vu ces milliers et ces milliers de réfugiés qui sortaient. Et là aussi, une détresse énorme. Et on s'est rendu compte que la situation est telle qu'il faut essayer de les aider là où ils sont. Si on attend qu'ils partent vers l'Europe occidentale, ils vont vers d'autres problèmes. Et en tout cas, eux, c'était clair. Ils n'avaient qu'une seule chose en tête. Ma femme pourrait vous le raconter encore beaucoup mieux que moi. Elle a vu beaucoup de ces femmes qui avaient un mari qui était tué à la guerre, des fils qui n'étaient plus revenus et qui lui disaient, mais nous, ce qui compte, c'est de retourner dans notre pays. Kobané, Kobané, ils avaient un chant. Kobané, mon amour. Tous les soirs, ils chantaient tous ensemble ce chant, retourner à Kobané. Et ils sont retournés à Kobané, puisque les unités d'élite de l'armée kurde a repris Kobané au printemps. Et le problème, c'est que Daesh n'avait pas dit son dernier mot et qu'au mois de juin, nous avions établi un camp à Kobané même. Nous avions au moins 120 personnes qui s'étaient converties entre-temps de ces réfugiés. Nous avons une grande église locale là-bas. Et une nuit, et Daesh s'est travesti en combattant kurde, ils sont entrés dans les maisons à Kobané systématiquement, ils ont tué tout le monde. La presse a dit qu'il y avait eu 20 tués. En fait, il y en a eu entre 200 et 400. Et cela, on les a vus. Et ensuite, ils sont allés vers le camp des chrétiens. Et nous avions un jeune de 16 ans, un jeune cuisinier, qui venait d'accepter le Seigneur. Il était chrétien depuis 3 mois à peu près. Et il avait la Bible en main comme ça. Et quand Daesh est venu, il a juste eu le temps de prendre son téléphone portable et de téléphoner donc à notre chef de projet. Et il a dit 2 choses. Il a dit, Daesh peut me tuer 10 fois. Et la deuxième chose, Jésus-Christ est mon sauveur, il est le roi. Et sur ces mots, Daesh sont venus, ils l'ont coupé les 2 mains et après ils l'ont égorgé devant tout le monde. Ça, c'est un jeune de 16 ans qui connaissait le Seigneur depuis 3 mois. Et ensuite, ils ont tué les enfants. Ça, c'est la situation que nous avons rencontrée donc, il y a 3 mois. Et donc, le projet à Kobané, pour le moment, nous sommes retirés de Kobané parce que c'est beaucoup trop dangereux tant que ce n'est pas sécurisé. Mais les chrétiens locaux, on peut leur envoyer de l'aide matérielle pour qu'ils continuent le travail sur place. Évidemment, c'est pas sécurisé. Et nous devons vraiment prier pour ces amis qui passent par des moments très difficiles. Maintenant, avec la situation telle qu'elle a lieu en Europe, nous essayons aussi de travailler avec l'UNHCR pour faire peut-être, pour ouvrir peut-être un camp en Bulgarie où on pourrait accueillir les réfugiés avant qu'ils viennent chez nous, pour pouvoir essayer de voir comment leur fournir un avenir, comment les encourager, pour certains en tout cas, à retourner chez eux. Mais ce n'est pas évident. Alors la question se pose, et chez nous, comment est-ce que nous faisons dans nos églises? Nous, personnellement, nous encourageons les églises à accueillir des réfugiés, et très pratiquement, la première des choses à faire, si vous accueillez des réfugiés, il faut leur apprendre la langue. Et s'ils n'apprennent pas la langue du pays dans lequel ils vont, ils vont être perdus. Ils ne vont pas pouvoir s'adapter. Vous créez beaucoup plus de problèmes pour eux que vous ne résolvez de questions. L'intégration n'est pas possible. Il n'y a pas d'avenir s'ils n'apprennent pas la langue. Je parlais dernièrement avec quelqu'un qui s'occupait d'un cours de langue dans une église en Suisse allemande. Et il me disait, mais ces réfugiés, il y en a 25 qui viennent dans notre église tous les samedis après-midi. Et ce sont des instituteurs, des professeurs à la retraite qui leur donnent ces cours de langue pour qu'ils puissent apprendre l'allemand. Et ça se fait dans d'autres églises. Et alors, nous avons eu l'idée aussi de mettre en place, ça vous le saurez peut-être dans les prochaines semaines, de mettre en place pour les églises qui le veulent, des cours de formation à l'accueil des réfugiés qui se dérouleraient sur 2 week-ends. Nous avons au CACP un expert en islamologie, le docteur Andreas Maurer, qui est prêt à se déplacer et à parler de l'islam, de dire comment il faut aborder aussi les musulmans, et comment répondre à certaines de leurs questions fondamentales, comment se comporter à leur égard. Et donc maintenant, nous sommes en train de rédiger un petit livret qui sera à la disposition des églises pour vous dire comment vous pouvez aller à la rencontre des réfugiés, quels sont les premiers gestes à faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, etc. Donc, nous voulons vraiment, dans la mesure du possible aussi, aider les églises qui s'engagent dans ce travail d'accueil. Enfin, je fais une petite digression, mais je ne serais pas complet si je ne profitais pas de l'occasion pour vous remercier pour l'action Paquet de Noël que vous menez si fidèlement, année après année, dans cette église. L'action 2015 est en route. Merci de vous y joindre une fois de plus. Merci vraiment pour cet outil que vous mettez à notre disposition. Vous savez, l'action Paquet de Noël, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une chaîne où chacun peut trouver sa place et qui nous permet vraiment, quand on va faire les distributions dans ces pays pauvres, de toucher les pauvres. On donne ces paquets à des enfants qui n'auront pas d'autres paquets de toute la période de Noël. Et voir le sourire de ces enfants qui reçoivent quelque chose, voir ensuite les pasteurs qui s'engagent derrière en disant « Maintenant, nous, on va aussi s'occuper d'eux. » Dans une église que nous avions visitée en Roumanie il y a 10 ans, 50 personnes sont venues au Seigneur à la suite de l'action Paquet de Noël et ont été baptisées. Voyez, donc c'est une semence de vie aussi. Nous aidons les nécessiteux, mais en même temps, nous apportons vraiment un message d'espérance en Jésus-Christ. Alors à ce propos, sachez que le CACP a une antenne importante qui fonctionne ici à Genève. Et comme nos besoins ne cessent d'augmenter, nous recherchons d'urgence des volontaires pour nous aider dans la collecte et le tri des habits et de tout ce que nous recevons. Et ce travail peut être adapté au rythme de chacun, ça peut être simplement une après-midi par mois, c'est déjà formidable, mais vraiment nous avons besoin d'aide en ce moment. Et si ça vous intéresse, venez me trouver à la sortie, je vous donnerai des infos concrètes. Et j'aimerais conclure, je vais vous raconter une histoire qu'on nous a racontée au Congrès mondial des chrétiens persécutés à Madrid au mois d'avril. L'histoire est la suivante. Deux frères habitaient chacun d'un côté d'une rivière et se faisaient la guerre. Un jour, le cadet a embauché un maçon et lui a dit « Écoute, je vais partir en voyage et je veux que pendant mon absence, tu édifies un mur de mon côté pour que je ne voie plus mon frère qui est de l'autre côté de la rivière. » Et il part en voyage. Quand il revient, voilà que le maçon avait construit un pont et pas un mur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ça, c'est le petit frère qui avait demandé qu'on construise un mur. Quand le pont a été construit, voilà que le petit frère voit arriver le grand frère sur le pont. Le grand frère vient à lui et le prend dans ses bras et le remercie d'avoir eu le courage de prendre l'initiative de la réconciliation et de l'accueil. Alors le petit frère, très gêné, lui dit « C'est pas moi qui ai pris cette initiative, c'est le maçon ». Alors, le grand frère se tourne vers le maçon et lui dit « S'il te plaît, reste avec nous, on a besoin de toi ». Mais le maçon refuse, il s'en va et lui dit « Je ne peux pas rester, les amis, car j'ai encore beaucoup d'autres ponts à construire ». Soyons des ponts envers nos frères persécutés, mais aussi envers les étrangers et les réfugiés. Aimons-les, accueillons-les comme si c'était le Seigneur, parce que eux aussi, c'est notre prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.